Vous écoutez
RMC.
Nantes. Alors, rapidement, avant qu'on revienne sur les événements et sur les développements du jour, rappelons quand même que depuis le début de la saison, on en est au énième fait divers violent. Là, cette fois, on a franchi évidemment encore un palier en plus avec un décès, ce qui est évidemment horrible pour le monde du football et pour tout le monde. 21 août dernier, ça avait démarré à Ajaccio-Bordeaux, affrontement entre supporters. On a eu le Nantes-OM, le 1er septembre, une famille agressée à la Beaujoire, rappelez-vous. 8 octobre, Montpellier-Clermont, le match arrêté après un jet de pétard. OMOL, on y était, 29 octobre, Cardet Lyonnais, Caillassé et Fabio Grosso blessés. Et plus récemment, Montpellier-Brest, le 26 novembre, avec le quart des supporters brestois attaqués. Donc ça, c'est la litanie des faits les plus marquants. Hein. Il y en a eu encore d'autres, à la marge, à droite, à gauche. Bon, là... ce qui s'est passé à Nantes aujourd'hui, on a plus d'éclaircissements aujourd'hui sur les faits. C'est important de les préciser parce que hier on n'avait pas encore tout. Aujourd'hui, le procureur à Nantes s'est exprimé. Il a expliqué dans le détail quel avait été le comportement du chauffeur VTC qui aujourd'hui est en garde à vue. Donc il y a eu donc un groupe de supporters qui a entouré sa voiture. Il est sorti. Il a agressé donc deux coups de couteau un supporter nantais. Derrière, il y a même donc la course a continué. Son véhicule dégradé, il a demandé aux supporters niçois à l'intérieur de son véhicule de lui donner de l'argent pour pouvoir réparer sa voiture. Les supporters niçois, sans doute un peu en panique et peut-être par peur, sont allés retirer de l'argent, l'ont donné à ce chauffeur VTC. On parle d'environ 1000 euros. Voilà, il y a deux chauffeurs VTC hein, qui aujourd'hui sont concernés par les poursuites judiciaires et éventuelles. Voilà, ça ajoute au fait qu'on a expliqué hier. Maintenant qu'on les a, provoque le débat suivant. Faut-il ou pas interdire concrètement les déplacements de supporters? Et aujourd'hui, on a donc la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est exprimée clairement sur la question. Elle a beaucoup dialogué avec Vincent Labrune, Daniel le disait. Et elle préconise des interdictions quasi systématique, si je peux le dire comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des classements de risque de 1 à 5.
Voilà. Il était classé 2, ce match-là.
Ce match-là était classé 2. Et en fait, la préconisation qui émerge ce soir, c'est de dire, OK, à partir du moment où c'est classé, à partir de 2, plus de déplacements. Voilà. C'est, bon, a priori, quand le ministère et la Ligue sont alignés sur quelque chose, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. On peut penser que le ministre de l'Intérieur, que le ministre de l'Intérieur va suivre. C'est, même ministre de l'Intérieur qui, en octobre dernier, il y a deux mois, avait tout fait pour limiter les interdictions. Donc on était à deux mois à rebours de ce qui se passe maintenant, avec des consignes données au préfet, voilà, pour encadrer les supporters, pour que ça se passe bien, etc. Donc là, c'était il y a deux mois. Donc là, on va faire un virage.
C'était aussi le discours de Vincent Labrune quand il a été élu à la Ligue.
Exactement. Et puis, on a eu Sacha Houlier plusieurs fois dans l'after, qui, avec un groupe de députés, avait travaillé
aussi,
longuement sur l'amélioration des déplacements, sur le fait que ça se passe bien, qu'il y ait du dialogue entre les clubs et les supporters, etc. Donc, en fait, tous ces efforts-là tombent comme un château de cartes, en fait. Là, c'est bon. Ça paraît compliqué.
Quand on fait confiance à la raison, visiblement, ça ne fonctionne pas.
Exactement.
L'évaluation de risque, tout d'abord, c'est la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme qui met la fameuse note. Aujourd'hui, la question est de savoir si ils peuvent eux seuls mettre la note, ou est-ce qu'ils ont besoin de l'aide, de la collaboration de la Ligue, qui aurait des informations sur les antécédents entre clubs, sur un passif que.
J'imagine quand même qu'elle n'aimait pas sa note en tombant du ciel, Daniel.
Non.
Elle devait être en relation permanente avec les références.
Il met des notes sur des matchs amateurs parfois. Hein. Oui, il y a un suivi très précis. Hein.
Stéphane, mais on va dire que...
Des matchs amateurs.
Ah oui, bien sûr.
On va dire que ce qui va être demandé maintenant, c'est encore une collaboration encore plus étroite. Mais effectivement, entre ce que pense la Ligue et ce que va penser la police de l'évaluation d'une note à risque, on ne va pas être tellement très loin. Donc reste à déterminer à partir de combien tu vas considérer que c'est un match à risque et que tu vas prononcer une interdiction de déplacement. On est dans une situation samedi soir qui nous a donc malheureusement proposé un mort. honnêtement, c'était prévisible et dit par la plupart des observateurs. Au vu de tout ce qui s'était passé, il fallait que le drame arrive. Le drame est arrivé. Donc, la première étape va être une sorte de moratoire, dans un premier temps, où on va interdire tous les déplacements, histoire de réfléchir à nouveau à la façon dont on peut organiser. Moi, ça fait longtemps que je milite pour l'interdiction totale, puisque de toute façon, il n'y a pas d'avancée dans le dialogue avec les associations de supporters. Et que ces associations de supporters sont de plus en plus débordées par... ce qu'ils appellent les gens incontrôlables, ceux qui gravitent autour des associations et qui ne sont pas contrôlés ou contrôlables par les associations qu'on pignon sur rue et qu'on connaît et que les clubs connaissent. Parce qu'aujourd'hui, dans cette collaboration étroite qui doit y avoir, en tout cas qu'on doit souhaiter, il faut que le club qui connaît tous les intervenants, tous les leaders d'assos, jusque-là, il y avait une sorte de deal entre eux. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? On essaye de travailler ensemble, main dans la main. Mais si les assos ne peuvent plus contrôler les gens autour, et là, le rôle de la Ligue va être extrêmement important parce qu'il va falloir qu'ils disent au club, si vous ne pouvez pas nous aider, si vous ne pouvez pas collaborer, si vous ne pouvez pas tenir vos troupes, en gros, et qu'autour, il y a trop d'indésirables qui foutent le bordel, eh bien, on va interdire. On va interdire pour une raison très simple. C'est que je pense, et ça, c'est ce que moi je dis, mais je pense que c'est également ce qu'on pense à la Ligue et encore plus du côté des pouvoirs publics, c'est que la police, elle a bien autre chose à faire les vendredis ou le samedi avec le climat qui règne en France en ce moment qu'aller s'occuper du déplacement de 200, 300, 1000 ou 2000 personnes. Que ça videra pas le stade, puisque le stade, il sera plein avec les supporters locaux, mais qu'ils ne croiseront plus les supporters qui viennent du club en face. Et alors quand les clubs n'ont pas d'antécédents et que ça peut bien
ça
se passer...
Ça n'empêchera pas les incidents, hein, parce que Marseille et Lyon, il n'y avait pas de supporters. Enfin, si, il y avait des supporters lyonnais, mais
oui,
les incidents, ce n'est pas entre supporters.
Oui,
enfin, bon, bref.
Ça, c'est un cas à part par rapport au panorama global. Mais de toute façon, on oublie toujours, parce que en fait, ce n'est pas une excuse que tu dis là, parce qu'en marge de l'incident majeur qui a été le calaissage du but où il y avait le staff lyonnais et l'incident Grosso, en marge, il y a eu
aussi, bien sûr,
le bus des supporters lyonnais qui est tombé dans un guet-apens. On a eu ça aussi. Comme on a eu Brest-Montpellier, Gilbert Lapacité. En fait, il y en a de plus en plus. Et attention, cette tendance, et j'appelle bien ça une tendance à la violence, elle est persistante parce qu'il existe maintenant sur les réseaux sociaux quelque chose qui est nouveau par rapport à il y a 10 ou 20 ans où les incidents existaient peut-être mais n'étaient pas rendus publics. C'est que maintenant, il y a carrément des médias qui font la promotion de la violence. On va appeler ça des hooligans TV, où en gros, avant c'était sur des fanzines ou des comptes obscurs, on racontait le déplacement, on avait détruit une station-service et on glorifiait ça. Parce qu'il faut bien le dire, il faut pas avoir peur des mots. Entre 20 et 25 ans, il y a une fascination pour la violence. Chez beaucoup de jeunes, je sais de quoi se parle, je l'ai connu, parce que j'ai fréquenté ces milieux-là. Donc je sais ce qu'il en est de ces choses-là.
Tu étais violent, Daniel ?
J'ai vu ces choses-là, je sais comment ça marche, ces groupes de supporters. C'est soit t'es le noyau dur, soit t'es premier cercle autour, soit t'es un petit peu en dehors et t'es facile. Tu sais, Nick Hornby l'expliquait très bien dans son livre Carton Jaune, lui qui avait fréquenté l'Arsenal à l'époque de Highbury et la fin des années 80, années 90, où régnait une vraie forme de violence dans les stades anglais, qu'on a connu ensuite en France. Et il expliquait que t'avais pas forcément besoin d'être dans le noyau dur, mais que même quand t'étais, tu sais, dans les tribunes, t'as une noyau dur, et puis tu montes, tu t'écartes un petit peu, tu montes de quelques gradins. Et en fait, même quand tu es un petit peu en haut, tu dénonceras pas ou il y aura une forme de fascination. Une forme de fascination pour la violence, le territoire défendu, le déplacement où tu vas, où il faut chanter plus fort que l'autre. Et si tu es provoqué, ben, il faudra ne pas reculer. Il y a eu le phénomène des vols de bâches. En fait, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une culture de la violence dans le football et dans le phénomène ultra, ça n'est pas vrai. N'importe qui pourra venir en face de moi, je lui dirai que c'est pas vrai. Je connais ce milieu. Qu'on vienne pas me raconter d'histoire là-dessus. Je sais tout ça. Donc aujourd'hui, on en arrive parce que là, maintenant, on a eu un mort. Yann Laurence, c'était en 2008.
Faut que tu fasses une pause.
Maintenant, on l'a eu aujourd'hui. À un moment, voilà.